Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité où toutes les deux semaines on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Deray et comme toujours accompagné de Pierre Ferréférent. Comment ça va Pierre?
Ça va super, merci Julien. Les beaux jours reviennent donc on profite du beau temps.
Ah, ouais, mais on parle pas, j'ai pris mes premiers coups de soleil le week-end dernier, juste à marcher dans la rue quoi. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de André de Souza. Enchanté André, c'est cool de t'avoir dans Agilist. Et c'est, merci de nous avoir passé un mail pour nous dire que tu avais des trucs intéressants à raconter. On est très heureux de t'accueillir.
Bienvenue.
Ben merci, bonjour Julien, bonjour Pierre. Je suis extrêmement content d'être parmi vous et super content en effet que vous ayez accepté ma proposition.
Mais avec plaisir, on est toujours curieux de découvrir des nouvelles choses et puis on est tous les deux extrêmement curieux en plus maintenant qu'on connaît un petit peu le programme. Donc aujourd'hui tu vas nous parler d'une méthode pédagogique innovante basée sur l'agilité. Donc c'est music to my ears.
Il nous en fallait pas plus.
C'est ça, il nous en fallait pas plus. Il y a tous les buzzwords pour nous. Donc c'est bon, on est déjà hooked. Voilà, et ensuite on parlera évidemment on partagera quelques outils de l'invité. Mais déjà, présente-nous qui tu es, que fais-tu, quelle est ton œuvre.
Yes, alors mon œuvre, je sais pas quand même pas, mais donc ouais, moi je m'appelle André de Souza. Ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans, 17 ans même, que je fais de l'informatique maintenant. Donc j'ai commencé en 2005 à faire de l'informatique et depuis à peu près 2010, je me suis spécialisé dans l'agilité. Donc qu'est-ce que je suis ? Je suis coach agile, j'ai envie de dire avant toute chose coach. J'étais Scrum Master bien sûr par le passé avant d'être coach, mais ouais, je suis coach agile. À côté de ça, je donne beaucoup de formations et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui et notamment comment ça a pu évoluer de ce côté-là. Mais je donne pas mal de formations sur tout ce qui a trait à l'agilité, donc les classiques, hein, Extreme Programming, Scrum, aussi un peu de Lean avec du Kanban ou du Lean Startup aussi, qui sont des sujets qui m'intéressent parce que j'ai eu aussi une startup en 2010. Donc sur les débuts de ma carrière, j'avais essayé de lancer une startup avec deux de mes collègues de promo. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis intéressé sérieusement à l'agilité et j'ai essayé de développer vraiment mes compétences là-dessus pendant ces 10 dernières années, en sachant que la formation, et c'est vraiment le sujet là pas le seul sujet qui me passionne, mais en tout cas un des sujets qui me passionne ces 5-6 dernières années, c'est vraiment la formation en agilité et l'utilisation de l'agilité pour apprendre en fait.
Excellent. Excellent. Donc, peut-être pour introduire, donc qu'est-ce qui t'a emmené peut-être à te poser ces questions-là, à essayer de développer une nouvelle méthode, d'où est-ce que ça vient tout ça?
Alors, ça part d'un constat, on va dire. Ça part d'une problématique que j'ai pu rencontrer. Moi, à la base, je suis consultant, donc je suis coach. Voilà, je donnais déjà des formations en entreprise. Donc, j'ai travaillé dans différentes boîtes de consulting en France, et je donnais de la formation professionnelle, comme le truc un peu classique où apprendre Scrum, le Scrum Master, le Product Owner. C'est des choses qu'on faisait et que j'avais l'habitude et que je rodais déjà depuis quelques temps. Et en fait, je me suis fait contacter par mon ancienne école d'abord pour donner des cours d'agile très très basiques, très classiques, tu sais. T'es dans un, pas, j'allais dire dans un amphi, mais c'est pas un amphi, mais tu vois, salle de classe un peu classique comme on pourrait les avoir au lycée. Et je voyais bien que y avait un truc qui allait pas, quoi. En écoutant un peu parler les élèves, en échangeant avec eux à la pause café, je me rendais compte qu'il y avait un truc, ils étaient cassés, ils avaient perdu un peu de leur passion, alors qu'ils étaient en école d'info. Je veux dire, c'est le truc un peu, tu vois, et puis c'était pas il y a 20 ans, et puis c'était pas hier, quoi. Je veux dire, c'était déjà dans l'air un peu. La golden hour, ou je sais pas trop comment dire, mais tu vois, la belle phase de 2010 à 2020 où en gros c'était un Eldorado quoi, on pouvait vraiment s'éclater. Et en fait je me suis rendu compte que moi quand je récupérais les élèves, bon, généralement je donnais des cours plutôt en M1 F2 initialement, mais je voyais qu'ils étaient quand même cassés, et en discutant après avec des plus jeunes, L3, L2, L1, donc première année après le bac, je me suis vite rendu compte que Et j'ai fait aussi quelques visites d'école, ce genre de choses, en lycée et tout, pour donner envie aux jeunes de prendre le virage du numérique et du digital. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas d'ambition, parce que pas de passion. Pourquoi pas de passion? Parce que pas motivé. Pourquoi pas motivé? Parce que le système classique aujourd'hui français, sans même parler de l'enseignement supérieur, crée beaucoup de problèmes ou casser en tout cas des vocations ou des envies très vite. Et c'est vrai que tu en as plein que je récupère des fois, notamment à l'école à la coding où j'enseigne le plus en ce moment, qui sont un peu cassés et qui ont changé de voie. Donc souvent, mais vous le savez, hein, c'est du classique, hein, c'est j'ai fait une année de fac. Ouais, j'ai fait une année de fac dans le droit, ça m'a pas plu. Ou alors j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque le DUG. C'est le DUG un peu en info. Et en fait, ils étaient cassés et puis ils ne comprenaient pas, ils ne prenaient pas de niveau. Et en fait, c'est assez symptomatique du sachant. C'est-à-dire que tu as le prof en face de toi, il te donne son cours, voilà, je sais tout, écoutez-moi, buvez mes paroles. Et c'est vrai que moi, si c'est pas Steve Jobs en face, quoi, je peux comprendre les élèves, quoi. Si vraiment la personne en face de toi, tu vois, elle a pas la science infuse, et franchement, il n'y en a pas beaucoup non plus dans le monde qui ont la science infuse, à part ChatGPT en ce moment.
Et encore,
ils se trompent. Je pouvais comprendre ces élèves-là, quoi, qui me disaient, bah non, écoute, j'ai pas trouvé mon bonheur, je m'ennuyais, très vite, j'ai décroché, j'apprenais rien. Et donc, c'était un peu le constat et la problématique que j'ai rencontrée aujourd'hui. De l'éducation, en tout cas, quand ils arrivent en enseignement supérieur, beaucoup sont là, soit par hasard, soit redirigés ou reconvertis aussi après quelques années parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, que ça allait pas, quoi.
Ouais, je me retrouve beaucoup dans cette description. J'ai eu la chance de faire une école d'ingé en alternance, donc j'avais quelque chose qui me raccrochait à la réalité et qui m'aidait un peu à m'accrocher parce que voilà, au moins. La moitié du temps, j'étais en entreprise, je faisais des trucs concrets, c'était pas toujours les trucs les plus intéressants, mais au moins, j'avais l'impression, et puis j'apprenais des tonnes et des tonnes. Mais à chaque fois que je retournais en cours, c'était vraiment l'enfer, quoi. Et autant en début de cursus, on a pris des hard science, et donc vraiment sciences dures à fond, thermodynamique, maths et tout, c'était pas inintéressant, c'était dur, mais c'était pas inintéressant. Au moins, il y avait quelque chose, même si bon, on se dit, bon, c'est un peu useless, j'utiliserai pas forcément plus tard, mais bon, au moins, il y a un peu de challenge, tu tapes dedans, tu poses pas trop la question. Mais après, en deuxième, troisième année, oh là là, c'était, t'as des profs, t'as des enseignants-chercheurs qui viennent te parler de technologies qui sont pas utilisées dans l'industrie depuis 20 piges, genre OSGI, des trucs comme ça, mais quel enfer! Alors, on peut pondérer, évidemment, j'ai appris quand même plein de choses, et plus je grandis et plus je me rends compte que ça m'a appris à travailler en groupe, que ça m'a appris à savoir ce que c'était aussi que travailler dans un collectif. On avait une promo qui était extrêmement soudée et j'en garde d'excellents souvenirs. Il y a évidemment plein de cours qui sont quand même intéressants, on voit pas que les trucs vieillots, hein. Il y avait des trucs qui étaient très ancrés dans l'industrie, et je sais que ouais, il y a beaucoup de travail qui est fait derrière pour essayer de toujours actualiser les programmes et être au plus proche de ce qui se fait dans l'industrie de façon à pas être en retard, mais j'allais à l'école juste pour avoir le diplôme à la fin, pour enfin pouvoir faire ce que je veux derrière et monter ma boîte et un peu oublier tout ce que j'avais appris. Mais finalement, je me rends compte que ce qui me reste de l'école, c'est plus la rigueur, la discipline, ces choses-là. Quelques cours qui m'avaient bien bien marqué, en particulier mon cours sur les méthodes agiles et le refactoring qui m'avait marqué absolument. Donc il y a un ou deux profs ou intervenants qui vont vraiment me marquer, mais sinon le reste, c'était juste t'attends que ça se passe, quoi. T'attends la libération. Chez Pierre, t'as eu une expérience un peu différente.
Assez même complètement différente. Mais alors, pour resituer, donc moi, je suis rentré au CESI, donc la partie EXAR, donc EXIA, qui est vraiment focus sur l'info. Et nous, c'était justement l'inverse. Ils avaient très vite compris qu'on venait parce qu'on avait une passion absolue pour l'informatique, mais que les sciences dures... Bon, moi, le premier, ça me dérange pas parce que j'aime les sciences en général, mais c'était vraiment pas le cas de tout le monde. Je devais être un des exceptions. On était peut-être 10% à être pas contre les sciences dures, mais les autres en voulaient simplement pas. Et l'école l'avait très bien compris. En fait, on faisait le minimum demandé pour être dans les clous de la CTI, donc la commission d'études d'ingénieurs, pour répondre aux sciences dures qui sont demandées. Mais je crois que sur les 5 ans que j'ai fait dans l'école, parce que donc c'était en prépa intégrée, donc j'ai fait les 5 ans complètes, donc les 2 premières années, puis le cursus vraiment d'ingénieur, donc les 3 ans qui suivent. Et je crois que sur ces 5 ans, on a dû avoir grand maximum 2 mois dédiés aux sciences pures. Et encore à ce moment-là, c'était sous forme de projet uniquement. On n'avait vraiment pas de cours magistraux ni rien. C'était vraiment que à travers des projets. Et je reviendrai après sur la méthode de formation, nous, donc du coup, c'était PBL. Donc je vais évidemment attendre que André, tu nous expliques plus en détail la tienne, mais j'ai énormément de questions puisque j'ai une approche qui a été vraiment différente et pour le coup, au niveau du CESI, ils ont été pionniers là-dessus, à tel point qu'aujourd'hui, la CTI recommande d'intégrer justement des principes de PBL puisqu'ils ont vu l'intérêt et les bénéfices et surtout les retours de cette méthodologie. Donc j'en reparlerai plus en détail après, mais je vais laisser la place à André avant. Top. Mais en tout cas, je comprends tout à fait. Et surtout, le point de vue que j'avais, donc on était très proche de l'université de Rouen et c'est pour le coup, j'avais justement ces gars-là qu'on croisait au start-up, au hackathon, ou alors qu'on croisait parfois en stage et on voyait un gouffre entre eux où nous on était des passionnés et on adorait ce qu'on faisait et ça nous gênait pas de retourner à l'école. Et eux qui en fait s'accrochaient au stage, ils étaient à 3000% dedans parce qu'ils me disaient le moment où je retourne à l'école, je sais que je vais recommencer en fait à me faire un peu chier quoi et d'avoir qu'une hâte, c'est de retourner en stage pour faire ce que j'aime, ce qui est du développement informatique et résoudre des problèmes par des solutions technologiques quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'était assez triste de les entendre dire ça quand nous on retournait à l'école, on était super contents quoi.
Okay. Mais ça, c'est un point, je reparlerai aussi tout à l'heure sur nous, ce qu'on a expérimenté et comment nous, on fonctionne maintenant. Mais ce sujet-là que tu disais aussi, Julien, de l'OSGI, et tu vois un peu tout ce contenu un peu dépassé. Moi, je croisais des élèves après en informatique qui me racontaient, quand je leur disais, bon, ok, qu'est-ce que t'as fait en dev et tout, ils me disaient, bah, j'ai fait du processing, quoi. Je crois que c'est du processing ou je crois que c'est ça le langage, tu sais, universitaire un peu. Je suis pas sûr que ce soit le processing, parce que ça, c'est utilisé.
Ouais, des méthodes formelles ou des choses comme
ça. Tu sais, très universitaire, que tu n'utilises que au sein de l'université, mais qu'en fait en entreprise personne n'utilise parce que c'est fait pour apprendre une sorte de, voilà, de truc un peu. Ou alors, comme tu l'as dit, des trucs genre, moi j'ai vu des programmes là, des élèves qui me racontaient des programmes dans les écoles où ils étaient en 2019. Tu vois, ils me parlaient de J2ME quoi, Java mobile truc là, édition là. Enfin, what? En 2019,
mais c'est dur.
C'est mort depuis combien d'années ça? Bon, très compliqué quoi. Et justement, j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet pour pouvoir passionner les élèves aussi. Hein. C'est comment est-ce que tu fais pour garder ta formation un peu on top sur les trends quoi. Comment est-ce que tu fais pour rester sur les trends et motiver les élèves pour qu'en effet, quand ils sont sur place, bah, ils aient envie de faire, d'expérimenter, de jouer avec et pas de se dire waouh, qu'est-ce que je fais là, vivement l'entreprise en alternance à nouveau quoi, parce que
ça. C'est... Bah, t'as deux facteurs qui sont extrêmement importants dans la qualité de la formation. La première, c'est in fine par rapport à ce qu'aura été couvert, quelle est du coup la valeur que t'as appris, mais t'as réellement la valeur uniquement que si t'as l'adhésion des étudiants, puisque si jamais tu leur donnes le contenu mais qu'au final ils ont écouté que 20% du contenu, bah au final ils ont pas 100% de ce qui est proposé, ils ont donc 20%. Donc non seulement le contenu doit être intéressant et en adéquation avec ce que les gens cherchent, mais surtout il faut que la manière dont le savoir est délivré soit intéressante de manière à ce que les étudiants absorbent le maximum pendant ces 3 ou 5 ans d'études pour devenir ingénieur. Donc
ouais, complètement,
très compliqué.
c'est tout le sujet, c'est tout ce que j'ai voulu justement traiter ces dernières années parce qu'encore une fois on parlait tout à l'heure d'amphi, je vous disais voilà, tu sais, les élèves sont là, ils sont en amphi, ils écoutent, t'as le sachant et tout, et en fait on le sait très bien, tu vois, aujourd'hui la stat, je l'ai plus en tête, mais elle est moins de 10% de ce que tu vas retenir sur de l'oral quoi. Et donc il vaut mieux que tu aies des messages forts, il vaut mieux que tu fasses passer des messages différemment pour qu'au moins ces 10% sont super importants. Et nous qui faisons de l'agilité, on le sait aussi, on pourrait avoir ce parallèle-là, vous savez, sur les fonctionnalités que tu délivres. Tu sais, quand tu dis voilà, je fais un backlog, j'ai 100 fonctionnalités, en fait, en vérité, loi de Pareto, il y en a 20 vraiment qui sont utilisées, les autres jamais utilisées ou peu utilisées d'après le Standish Group, c'est des classiques ça. Bah, c'est un peu pareil à l'école, quoi. Enfin, pour le coup, dans la même chose.
C'est bon. Donc maintenant qu'on a commencé à défricher le sujet, dis-nous tout. Parlons vraiment de la méthode. Non, j'ai envie de savoir.
Yes. Alors le point, c'est que comment est-ce que tout ça, comment est-ce qu'on en est venu là en tout cas. Donc je le disais tout à l'heure, moi je donnais des cours à la base d'agile. Donc je formais les gens en agile en entreprise et puis on est venu me contacter, on m'a dit voilà, on a quelques cours d'agile en Scrum et tout ça. Je dis ok, allons-y. Il y avait justement mon ancien collègue de promo Guillaume Varcol avec qui on a travaillé à l'époque, donc on était de la même école et avec qui on a monté notre première startup, on est resté très proches. Et moi je suis revenu donner des cours d'agile et lui il est venu travailler sur un programme d'entrepreneuriat pour les M2, donc pour les masters. Donc il a refait tout un programme d'entrepreneuriat avec des expériences d'entrepreneur super cool, un truc vraiment vraiment top, pour lequel d'ailleurs on faisait des learning expéditions en Silicon Valley. Donc c'était vraiment un truc vraiment super intéressant pour les élèves, très quali je trouve. Donc il a vraiment bien bossé le dossier et moi j'intervenais avec lui sur des aspects plus lean startup, j'animais sur place aussi, je l'aidais, je facilitais des choses sur place en Silicon Valley. Et donc l'école, bon, comme ça marchait bien, qu'on avait, on avait quand même un bon crédit auprès de l'école et qu'on avait fait des choses assez sympas, on est revenu vers moi, parce que comme j'étais un peu l'expert agile de l'école, on est revenu vers moi en me disant voilà, André, on voudrait monter une école du code. Parce que c'était une école très, vous savez, master, manager en informatique, un truc un peu classique, quoi, où tu touchais un peu à tout. Mais ils voulaient vraiment du code pour du code. Donc ils en avaient marre de. C'est pas qu'ils en avaient marre, mais ils voulaient compléter leur offre de formation qui commençait par des BTS, où en fait, le problème des BTS, c'est que c'est super, hein, c'est l'éducation nationale, donc ça rassure beaucoup les parents. Mais en vérité, le contenu, il commence à être un petit peu poussiéreux. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des écoles comme 42, c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Il y a des écoles comme la Coding Academy, je crois, ou d'autres écoles comme ça, qui sont des écoles qui ont pris le parti de dire « Ok, nous, on fait du code pour former des développeurs. » Et donc, ils voulaient créer une école du code. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, je fais le Scrum Gathering à Porto, d'ailleurs au Portugal. Et je viens en tant que speaker pour le Mob Programming, qui est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, qu'on expérimentait avec mes équipes à l'époque. Et je rencontre sur place, je vais à une keynote de Willy Wijnands, qui est le cofondateur de EduScrum, donc qui est une méthode, qui est le Scrum appliqué à l'éducation. Et donc je vois sa keynote, je trouve ça génial, il fait intervenir des élèves de collège, parce qu'à la base, l'EduScrum, c'est fait pour le collège. À la base, hein, en tout cas, lui, il l'a créé dans cette optique-là pour ses classes. Et donc, je vois des élèves super sur deux, tu vois, c'est des Hollandais, quoi, tu vois. Je suis au Portugal, le gars vient et les élèves parlent en anglais, mais tout va bien, hyper à l'aise. Oui, les du Scrum, c'est génial, on fait ça avec Willy, c'est super. Je me prends une claque, tu vois, je me prends une claque, vraiment. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de nulle part, j'ai jamais entendu parler de ça. Je rentre, donc j'échange très vite fait avec Willy sur place, mais vraiment très vite fait, je rentre en France. Et donc on me contacte, on me dit voilà, on voudrait monter ce truc-là. Je dis bah attends, moi je veux bien vous aider, il y a pas de souci. Et on me dit par contre il nous faut un truc différent, innovant. Les formations plan-plan, enfin ça va pas marcher. Il faut qu'on fasse un truc comme vous avez fait pour les entrepreneurs, un truc vraiment qui donne envie, où on fasse rêver les élèves et tout. Je dis ok, bah écoute, bah, je pense que j'ai un truc là. Je viens de voir l'EduScrum, je t'explique rapidement. Je lui explique, elle dit écoute, on en reparle. On devait être en décembre 2016. Et en fait, ils voulaient démarrer en septembre 2017. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est accordé. Ouais, il y avait 8-9 mois, mais en vérité, avec les vacances et tout, il y avait un peu moins. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a échangé, on s'est mis d'accord, on est parti sur cette méthode pédagogique finalement en tant que fondement ou pilier. En tout cas, on est parti là-dessus pour avoir le pilier du travail. Et après, dessus, on est venu rajouter des choses, des briques. Parce que du Scrum, c'est du Scrum. Pas se mentir, c'est du Scrum classique avec un petit truc un peu sympa en plus qui est la DOF, qui est la Definition of Fun, qui permet aux élèves en fait de définir par semaine, par sprint, ce qui les éclate ou qui les motive ou les passionne. Par exemple, tu vas dire bah voilà, moi le jeudi, je sais pas, je vais manger à tel endroit. Le mercredi, on se fait un midi série, par exemple, ou on joue à League of Legends, je sais pas, pendant une heure. Bref, ils s'accordent, ils trouvent un truc qui les motive en tout cas à travailler. Donc je mets en place ça, je déroule la méthode, je la mets en place, on trouve les profs, on définit le contenu pédagogique. Et là, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, en définissant le contenu pédagogique, on se base sur les trends. Donc c'est-à-dire que je un peu travaillé avec des élèves avant, je voyais un peu qu'ils n'étaient pas contents, les trucs poussiéreux. Et donc on dit ok, on part vraiment, on fait que du code. Donc on s'est mis à faire que des langages, de la programmation orientée objet, de l'algo de base, bien évidemment, les trucs classiques, tu vois, quand tu démarres dans le dev. Un peu de modélisation, voilà, bien sûr de l'agile, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est, voilà, on le sait, hein, c'est un peu la base en entreprise. Mm-hmm. Et donc on met ça en place, on démarre en septembre, et donc on fait notre premier batch, donc notre première année, pardon, plutôt qu'un batch, première année avec un diplôme certifié CNCP. Donc voilà, et on expérimente. Ça se passe super bien, on a des super retours, les premiers élèves sortent, ou en tout cas continuent avec nous. Et en fait, de fil en aiguille, on est parti. En termes d'inspiration, comme je le disais, c'était du Scrum. Donc c'était la base, très Scrum. Moi, par-dessus, j'ai commencé à mettre un rythme qui me paraissait plus cohérent que les du Scrum. Parce que la problématique de les du Scrum, c'est qu'il faut le rappeler, c'est fait pour des collégiens. Or, au collège, tu fais pas des blocs d'une semaine ou deux semaines, trois semaines de sprint, tu vois, d'affilée comme nous, on le ferait en entreprise. Et donc moi, j'ai imposé un truc à l'école, j'ai dit, il faut qu'on ait un rythme où il n'y a pas de commutation de tâches, où les élèves sont focus, parce qu'on sait les ravages que ça a sur notre cerveau quand on est dev et qu'on commute. C'est vraiment un productivity killer. C'est d'ailleurs un des points que je mettais en avant sur le mode programming, une des forces du mode programming. Et donc, on fait des blocs d'une semaine. Donc, tous nos cours sont sur des blocs d'une semaine. Quand tu fais, en l'occurrence, de la Jagged School, j'en ai pas parlé, mais c'est le nom de la méthode. Quand tu fais de la Jagged School, c'est vraiment une semaine, c'est ton bloc. Donc, tu vas faire, par exemple, du JavaScript en une semaine. La semaine d'après, tu vas faire, enfin avant, tu vas faire de l'HTML, peut-être tu vas faire du JavaScript, peut-être tu vas faire du CSS. Et au bout de 3-4 semaines, ça sera une release. En gros, tu auras un cycle d'apprentissage complet autour du développement web, pour vous donner un exemple. Mais après, à côté, les élèves sont en pseudo-scrum, parce que c'est pas totalement du scrum, mais c'est quand même assez classique, avec un sprint planning en début de semaine, le stand-up tous les jours, enfin ce que nous on appelle le stand-up chez nous. Ils ont un board. Voilà, ils présentent le vendredi ils font une revue de sprint à leur PO pour le coup, qui ensuite a évolué sur, parce que encore une fois il y avait des choses qui m'allaient pas dans les du scrum, mais j'ai mis quelques années à le comprendre en fait, en regardant les élèves évoluer. J'avais beaucoup ce rôle un peu de d'analyse ou de travail d'introspection, de rétrospective avec tout le monde, et je voyais bien que le PO ça marchait pas trop comme terme, donc on a fait évoluer ça vers le mentor en fait. Donc les profs sont des mentors qui sont là pour coacher, aider, accompagner, supporter les élèves. Et chaque groupe, donc les élèves ne sont jamais seuls. Ils sont toujours en groupe de travail comme en entreprise, de 3 à 4 comme dans les du Scrum, avec un rôle qu'on va appeler le servant leader, où en groupe, chaque semaine, un élève sera servant leader pour le reste de sa team. Donc son job, un peu comme un Scrum Master, mais c'est pas un Scrum Master. C'est vraiment d'aider l'équipe, de la supporter, d'encourager, d'aller chercher les informations, de faciliter, de se mettre vraiment à la place de l'équipe et de les supporter dans tout ce qui sera nécessaire. Et en plus, bien sûr, ils ont leur job d'apprentissage classique, bien évidemment. Mais en gros, voilà, on est parti vraiment de ces inspirations de Scrum et du Scrum. J'ai voulu un peu partir, m'extraire du Scrum pur parce que je trouvais que, voilà, il y avait, au fur et à mesure des années, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais on a gardé quand même les fondamentaux du Scrum avec la rétrospective dont je vais pas parler juste avant, mais rétrospective, stand-up, sprint planning. Et on s'est un peu extrait aussi des rôles que je trouvais pas assez cohérents, on va dire, dans le monde de l'éducation. Donc on est sorti de ça et on a essayé de mettre un cadre vraiment méthodologique avec une semaine plutôt que « Ah, je fais une journée de ci, je fais une autre journée de ça » parce que là, du coup, ça devenait très compliqué en enseignement supérieur.
Super intéressant, ça doit bien te parler Pierre. Je regardais mes notes de mon séminaire militaire avec AT, parce qu'il y a un truc qui me revenait un peu dans la tête, c'est que on avait l'idée de l'élève du jour. Et chaque jour, t'as l'élève du jour, c'est un truc qui est pris de l'armée, t'es un peu le leader de la classe, c'est toi qui dois organiser les trucs. Et ça, c'est un truc que je regrette de pas avoir eu à l'école, dans aucune de mes formations. C'est vrai que c'est rien que ça, c'est intéressant, je trouve. Mais bon, bref, je laisse la parole à Pierre, ça doit te parler beaucoup plus que moi, tout ça.
Non, énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de similitudes avec PBL. Donc, j'ai aussi quelques questions, mais je vais déjà donner les points communs. Donc, pareil, dans PBL, on est sur des unités de travail. Donc, on ne fait pas le matin du CSS, l'après-midi de l'algo, le lendemain de la communication entreprise et l'après-midi, j'en sais rien, de la planification de projet. On garde justement des unités. Donc, nous, c'était généralement de 2 à 3 semaines. Mais c'est exactement la même logique. C'est-à-dire, on commence par exemple avec du C, ensuite on fait de l'HTML, ensuite on fait du CSS, ensuite on fait du JavaScript, et donc c'est la première question que j'ai. En fait, on avait donc ces unités, donc par exemple on va dire que le web développement chez nous ça prendra 2 mois avec justement donc d'abord, enfin séquence par séquence, et au bout des 2 mois en fait pour consolider tous ces acquis, on va dire unitaires, on les rassemblait dans un projet, donc c'est-à-dire qu'on avait à peu près la même logique. Donc par exemple, donc quand on commençait, donc mettons on commence le lundi. Lundi matin, on est dans une salle, donc on était à peu près des petits groupes de 10 avec un professeur. Donc on n'appelle même pas des professeurs chez nous, on les appelle des tuteurs, dans l'idée un peu des mentors, c'est-à-dire qu'ils sont là pour guider et aider. Ils sont pas là pour directement nous instruire ou délivrer du savoir dans une classe. Et donc du coup, on se rassemblait en petits groupes de 10. Dans ces groupes de travail, il y avait toujours un scribe, quelqu'un qui gérait le temps et une personne qui était donc du coup le facilitateur. Donc c'est lui qui donnait la parole ou qui faisait avancer les topics pour être sûr qu'on reste dans le temps donné. Et donc on avait donc un problème qui nous était énuméré avec justement des mots-clés ou des phrases ou des concepts qu'on devait justement bien mettre en avant pour être sûr de travailler dessus. Et on avait une restitution 2-3 jours plus tard où on revenait avec le même tuteur, le même groupe, et on restituait justement donc tous les points qu'on devait identifier, on les mettait en avant, on expliquait les concepts, le tuteur s'assurait que les concepts avaient bien été compris, s'il y avait des erreurs évidemment il nous corrigeait, et ensuite on disait donc le problème avait été ça, nous c'est la solution qu'on a trouvée. Et là c'était vraiment pour le coup et c'est là une des différences, par exemple, c'est que chacun pouvait, s'il y avait une personne qui préférait travailler toute seule, elle pouvait s'isoler pendant les 2-3 jours et bosser de son côté et revenir seule, ou s'il y avait 2-3 personnes qui voulaient travailler ensemble, ils pouvaient le faire aussi, c'était assez flexible là-dessus. Une question que j'ai, c'est au niveau des groupes, donc j'imagine qu'ils sont donnés par unité de travail, est-ce que ce groupe reste le même par exemple pour toute l'année, ou est-ce qu'il est le même groupe uniquement pendant cette phase, par exemple une semaine sur l'HTML, c'est le même groupe, mais quand on aborde le CSS la semaine d'après, le groupe va changer, ou est-ce que ça reste le même?
Alors, en fait, chez nous, on a le... Alors, comme vous le savez, hein, tous les deux, hein, en Scrum, on sait que la stabilité fait la force de l'équipe. Donc, plus tu as une équipe stable, plus tu fais en sorte de limiter un peu les obstacles extérieurs et donc de changer de projet, ainsi de suite, plus tu vas avoir une meilleure vélocité. Ça, on le sait, c'est connu, c'est comme ça. En fait, pour moi, et c'est aussi, enfin, c'est un parti pris, hein, c'est que pour nous à l'école, ça marche moins bien, ça. Le risque, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est... On fait en sorte de changer au plus possible les équipes toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire que tu vas par exemple faire du PHP, on va être tous les trois. Semaine d'après, on va faire, on va partir sur du Java, on sera plus ensemble. Parce qu'en fait, on part du principe qu'à l'école, on a tous à apprendre quelque chose les uns des autres. Et on n'est pas sur une productivité type vélocité où il faut, voilà, t'as une livraison, tu dois assurer le truc parce que t'as pas les mêmes objectifs comme en entreprise, tu vois. Mais ce que je remarque, néanmoins, maintenant que je t'ai dit ça c'est la théorie. Dans la pratique, je remarque que plus les années avancent, plus les années passent, plus t'as des affinités, plus t'as des automatismes avec les gens, et c'est comme en entreprise, hein, plus t'as envie de travailler avec la même équipe, et souvent, vers la fin, t'as des équipes qui sont constituées et qui restent assez stables. Mais nous, en tout cas, sur les premières années, on pousse vraiment pour que les gens tournent, pour que les équipes tournent, parce que comme c'est ce que je leur explique, c'est que moi, je sais pas, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais j'utilise VS Code. Si toi, tu utilises IntelliJ, je veux dire n'importe quoi, t'as pas les mêmes raccourcis que moi, t'as pas les mêmes façons de faire. En gros, tu vas m'apprendre des techniques que moi je connais pas forcément. Mm-hmm. Ça va m'ouvrir en fait mes horizons. Et comme on travaille beaucoup en pair et en mob programming, ça fait partie aussi du day-to-day, un peu de ce qu'on utilise comme technique, mais pas que d'ailleurs, mais je vous en reparlerai, mais c'est vrai qu'on aime bien faire tourner les équipes. Donc généralement, on fait tourner les équipes sprint après sprint.
Ok. Ok. Et du coup, sur la deuxième question, donc évidemment, il y a donc ce que tu parles, c'est ces unités, donc le sprint du coup d'une semaine où on part sur un topic. J'imagine des fois même, vous avez peut-être plusieurs sprints sur le même topic si c'est un gros sujet. Est-ce que du coup, c'est consolidé comme en PBL avec du coup un projet derrière qui, on va dire, rassemble un petit peu tout, ou est-ce que c'est toujours des sprints toute l'année où il y a une cadence qui change, ou est-ce que c'est vraiment sprint après sprint où il y a un changement, comme par exemple passer en mode vraiment projet, et là pour le coup c'est plus long, peut-être 2 à 3 semaines pour livrer quelque chose de vraiment plus gros ou pas au niveau.
On a les deux cas. Pour te répondre très clairement, en fait, la base c'est de dire, t'as une semaine, tu fais de l'HTML, ok, ton PO ou ton mentor, il va venir, il va te dire on va apprendre les bases de HTML, voilà. Et pour ce faire, l'étude de cas de la semaine, ce sera donc un projet. On aura un projet fil rouge, conducteur, toute la semaine, qui sera, je sais pas moi, développer un site vitrine statique, parce qu'on est en HTML, on n'a pas fait de JS. Si je prends, si par exemple on est dans une semaine où on va faire quelque chose d'un peu plus poussé, dynamique ou je ne sais quoi, je sais pas, PHP ou autre, ça va être pareil. Ton mentor va arriver, va te dire, voilà, mais je pourrais peut-être plutôt prendre mon exemple. Par exemple, si moi je suis plutôt mentor sur tout ce qui est agile. Donc du coup, je vais donner des cours sur le Scrum, sur l'Extreme Programming, sur le Mob Programming. Je vais faire un peu un melting pot de tout ça. Je vais leur donner un peu de théorie, je vais leur donner des exercices pratiques. Et moi, par exemple, dans mon cas, je leur donne un projet toutes les semaines, comme tous les autres mentors, mais sauf que moi, dans mon cas, comme c'est pas du code pur, je leur donne par exemple le jeudi. Donc je réexpliquerai ça dans le day-to-day de comment on fonctionne, mais en gros je leur donne un projet à réaliser en un jour, une journée, une journée et demie, et ils doivent me faire un rendu sur ce projet le vendredi matin lors de la revue de sprint. Là où je dis qu'il y a les deux, c'est que toutes nos semaines sont ponctuées par un projet. Donc il n'y a pas de théorie pour faire de la théorie ou de la pratique avec des petits exercices pratiques. Ouais. Toutes nos semaines ont au moins un gros projet avec un rendu soutenance revue de sprint à présenter au mentor le vendredi matin. Après, là où je te rejoins, et je pense que c'est intéressant, et nous on le fait en tout cas à l'école, c'est un des points qu'on a mis en place, mais qui n'est pas introduit dans la méthode, parce que ça c'est une liberté que je laisse, que je n'ai pas inscrit dans la méthode. C'est quelque chose que je pense qu'il faut laisser un peu à chaque école ou chaque responsable pédagogique un peu le choix là-dessus. Mais c'est un truc qu'on fait qui marche bien, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on par exemple sur le web, on va avoir toutes nos semaines avec, comme je disais, un projet HTML, CSS, et en milieu d'année ou fin d'année, on va avoir ce qu'on appelle un projet web, où en gros, tu vas avoir 2 semaines Et en fait, tes 2 semaines, ça sera soit un projet imposé, soit c'est eux qui définissent et on échange sur le projet qu'ils veulent faire. Et au bout des 2 semaines, ils nous font leur revue de sprint, groupe par groupe, pareil, pour nous présenter. Et là, c'est généralement, bah, voilà, comme tu l'as dit, hein, tu vas implémenter l'ensemble des technos que tu as appris pendant ces 4 ou 5 semaines peut-être.
Ok, ok. Et à nouveau, du coup, quand ces projets-là arrivent, est-ce que vous laissez de nouveau les étudiants s'organiser tout seuls pour créer leurs équipes ou est-ce que vous imposez les équipes ?
Généralement, on n'impose pas. On n'impose pas, mais parfois, il y a des mentors qui le font. Nous, on essaie de ne pas l'imposer pour qu'ils se sentent en confiance et qu'ils aient envie. Tu vois, généralement, enfin, encore une fois, ça dépend des objectifs pédagogiques de la semaine, mais sur des projets web, par exemple, on va pas imposer. Et on va laisser les élèves un peu s'organiser. Il y a un truc qu'on fait aussi qui est cool et ça va vous parler. C'est pour ça que je le dis. Non, j'en parlerai pas. Mais c'est on fait ce qu'on appelle des projets scale-up. Où en gros, moi dans ma semaine de Scrum, enfin d'Agile, je leur explique déjà un peu ce que c'est l'agilité à l'échelle. Donc je leur donne une overview très rapide sur voilà, t'as du Less, t'as du Safe, t'as du Spotify, t'en as d'autres. Et donc quand on fait le projet scale-up, en gros l'idée c'est de dire bah vous allez faire du web et en plus vous allez l'implémenter en termes d'organisation, donc en termes de soft skills, c'est ultra puissant parce qu'on leur dit bah, maintenant vous allez vous organiser pour que toute la classe, donc ils sont généralement 20-25, tu vois, pour que toute la classe réalise, je vais te dire une bêtise, un YouTube, un Twitter ou quoi, mais en mode feature team. Donc chacun a son backlog, tu vois.
Ça c'est cool.
Et je leur dis voilà, vous avez 15 minutes, je démarre un timer, je vous explique brièvement les sujets, je vous montre le backlog et vous vous mettez en place. Et en gros, il y a des boards. Je sais pas, timeline, profil, je sais pas quoi. Et en fait, ils se mettent sur les boards. Au bout de 15 minutes, on a défini les équipes. Ils démarrent. Et en fait, le truc, c'est qu'ils doivent se débrouiller pour s'organiser tous ensemble avec le Git et tout ce que ça engendre, hein, pour travailler ensemble, échanger et réussir à mettre en place un produit à 20-25 et pas juste un YouTube ou un Twitter par équipe.
Franchement, c'est ultra puissant parce que nous, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est justement un des trucs où on a toujours été au grand maximum des équipes de 4. Mais c'est vrai que d'être plus, ce qui est littéralement le cas dans, on va dire, la grande majorité des entreprises, tu travailles. Enfin, c'est très rare d'avoir une équipe que de 4 ingénieurs quand tu dépasses 50 personnes, même avant. Mais en tout cas, ouais, non, nous, on n'a jamais eu ça. Et pour le coup, ça a l'air ultra intéressant parce que c'est justement une des, on va dire, des dimensions que j'ai pas eu à l'école. Et c'est vrai que c'est. Je trouve, enfin, l'école, du moins là où j'ai été, m'a très bien appris à m'organiser sur une équipe, on va dire, jusqu'à 8-10 personnes, grand maximum. Mais c'est vrai que d'organiser plusieurs équipes pour rendre le même projet, ça, on ne l'a jamais fait et ça a l'air ultra intéressant pour le coup.
Pour le coup, c'est. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'est pareil, c'est à force d'avoir ce feedback et ces retours et d'essayer un peu d'améliorer la méthode petit à petit, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que les élèves étaient assez forts pour travailler finalement dans des petits groupes de 4-5, un peu ce que tu viens de me dire, mais toi à une échelle un petit peu plus grande finalement, ce qui a dû sans doute t'avantager. Mais dès que je voyais que ils devaient échanger entre groupes, ça prenait d'autres ampleurs. Et je me suis dit, tiens, on va faire un truc, on va tenter de mettre en place du less. De façon arbitraire, on a pris du less pour voir. Et c'était assez impressionnant. Parce que la semaine commence et ils te regardent avec des yeux, mais en vrai, mais ça va jamais marcher. Tu te rends bien compte que là, on va te livrer un truc, mais nul. Je leur disais, vous inquiétez pas, vous connaissez la méthode, vous savez, dépassement de soi, tout ça, ça va marcher. Et à chaque fois, ils me font des rendus. C'est de l'espace, quoi. Enfin, même moi qui savais qu'ils étaient capables de le faire, je m'attends pas à ça. Tellement. Ils se la donnent, en fait. Ils se la donnent. Ils se disent, non, mais attends, là, c'est fou. Donc, ouais, c'est cool. C'est plutôt cool.
Et du coup, de ce que je comprends aussi dans l'esprit, il y a vraiment cette idée de toute façon, on va débriefer à la fin. Donc, si ça marche bien. Ben, ça marche bien, mais si ça marche pas, on va pouvoir débriefer et voir ce qui a pas marché, et du coup on va toujours apprendre quelque chose de cette expérience. Donc j'ai l'impression que c'est une méthode qui est un peu moins punitive aussi que la méthode un peu plus brutale de évaluation individuelle. Et c'est un peu une question que j'ai, c'est comment ça se passe, ces évaluations? Est-ce que les élèves sont juste évalués sur les rendus en fin de sprint? Est-ce qu'ils sont évalués aussi sur leur comportement ou ce qu'ils vont apporter dans l'équipe? Est-ce qu'on évalue les soft skills ou que le rendu? Alors, comment ça se passe?
Alors nous, on évalue sur deux éléments. On a une note de groupe, forcément, puisque je leur dis, vous êtes tout le temps en groupe. Donc tu as la note de groupe. Et pour moi, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui en entreprise, et c'est aussi dans une de nos valeurs, c'est de dire soit on réussit tous ensemble, soit on échoue tous ensemble. Et ça va avec prendre soin des autres et ainsi de suite, et voilà, et le bien-être de l'équipe et tout. C'est des valeurs qui nous sont chères, nous, normalement, à nous, agilistes. Hein. Enfin, moi, la plupart des agilistes que j'ai rencontrés, c'était un truc qui était super important, tu vois. Le bien-être de l'équipe et ainsi de suite. Et donc on évalue vraiment le groupe parce qu'on considère que le groupe, c'est vraiment le truc qui doit passer avant tout. Mais tu es à l'école. Donc il y a un moment donné, tu as ta note de groupe. Donc tu peux très bien avoir, je sais pas, un 15 ou 16 parce que le groupe a surperformé, était très fort, ils ont bien présenté, le code il est plutôt clean et tout, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu peux très bien avoir une super note de groupe, mais en individuel, pour les raisons notamment, mais pas que tu viens d'évoquer, Julien, c'est-à-dire que est-ce que tu étais présent, est-ce que tu as supporté la team, est-ce que tu as fait plus que ce qui était prévu, est-ce que tu as une bonne attitude à essayer de relancer, chercher des obstacles, faire attention à la méthode, notamment si tu es servant leader, on t'attend aussi là-dessus. Hein.
Évidemment.
Tu vois, nous on est dans une école, enfin, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne, hein, dans une école d'informatique, t'as tes postes. Donc tu sais très bien qu'à un moment donné, si tu t'ennuies, bah, tu vas finir par aller sur YouTube ou jouer.
Bien sûr.
Donc ça, c'est à l'attention des mentors. On leur dit, hein, on les brief, on leur dit, voilà, vous, dans vos évals individuels, vous devez prendre en compte, vous devez aussi les interroger techniquement de façon un peu individuelle lors des revues de sprint. Mais vous y avez aussi tout le support et tout l'accompagnement toute la semaine où vous devez voir l'attitude de l'élève. Est-ce que c'est une attitude plutôt inclusive, bienveillante, d'échange, de travail avec la team, ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui a voulu se mettre en retrait, travailler dans son coin, pas échanger, pas communiquer, voire pire, jouer. Enfin, tu vois, on essaie vraiment de chercher les gens qui se cachent derrière le groupe. Donc, on a vraiment les deux parce que tu peux pas... à un moment donné, tu es obligé de passer par là si tu veux réussir à évaluer un peu plus finement les compétences de quelqu'un d'un point de vue hard skills, pour le coup.
Ok. Et donc, à nouveau, je continue à faire mon analyse avec PBL. Donc, vous n'avez pas, par exemple, parce que nous, tous les jeudis matin, limite, c'était une cérémonie pour nous à ce niveau-là, puisque c'était cyclique tous les jeudis. On avait en fait une demi-heure en amphi, tous, et toutes les cinq promos. On allait en amphi, en fait, on avait directement sur notre ENT, donc notre environnement numérique, on avait en fait littéralement une interrogation. Souvent, c'était donc QCM, jusqu'à 30 questions en une demi-heure. Et c'était boum, 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 vraiment restitution de connaissances, vraiment bête et méchante. Mais c'était du coup un des points pour du coup les évaluations individuelles. Et à nouveau, quand on restituait les projets, alors pas justement, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on n'avait pas d'évaluation sur les unités de travail. Et en fait, ce qui servait d'utilisation, c'était le projet. Et donc, à nouveau sur le projet, donc comme tu expliquais, revue de sprint, on avait aussi cette partie où en fait, on présentait le projet en groupe. Et ensuite, on avait, c'était je crois, 20 minutes individuelles par personne. Donc, c'est ça, 1h20. Et donc, 20 minutes où tu rentres dans la salle avec les 5 personnes qui avaient eu le projet. Et là, on te tombe dessus vraiment au niveau personnel. Donc, qu'est-ce que tu as fait dans le projet? Comment tu as ressenti le projet? Où est-ce que tu as travaillé techniquement? Ok, montre-nous le code, explique-nous ci, ça, ça. Et là, voilà. Soit on se faisait dinguer, ou soit ça se passait très bien. Mais c'était vraiment pour le coup là où on se rendait compte, est-ce qu'il y en a qui ont servi de cargo, et est-ce qu'il y en a vraiment qui étaient sur le pont en train de bronzer, quoi. Donc ouais. Mais du coup, non, c'est intéressant parce que je retrouve les mêmes mécanismes, pas forcément de la même manière et sur la même durée de temps. Mais c'est hyper important justement d'évaluer à la fois le groupe, mais aussi l'individuel, puisque à l'école, on remet pas un diplôme à un groupe, on le remet évidemment à des individus, donc on est obligé d'avoir cette partie individuelle, quand bien même, et surtout nous en tant qu'agiliste, on insiste toujours sur le groupe avant l'individu, mais ça reste une école dans ce cas-là, et donc forcément l'individu doit aussi être évalué à son niveau personnel.
Ouais, t'as pas le choix.
Au final, pour faire un bon groupe, il faut des bons individus.
Je suis complètement d'accord, et c'est aussi pour ça, donc je le disais, qu'on a cette double notation. Mais après, parfois aussi, on les appelle pas des checkpoints, mais en gros, on a des évaluations un peu certifiantes par rapport au diplôme aussi. C'est quelque chose, c'est une obligation.
Évidemment.
Par rapport au diplôme. Mais là, encore une fois, c'est pas un truc qui est lié à la méthode, qui est plutôt lié à l'école ou aux écoles, où en gros, selon ton diplôme, tu vas devoir certifier par des épreuves seules, quoi. Donc, tu vas faire du SQL, tu vas faire, un projet en code, parce qu'à un moment donné, tu dois certifier de niveau individuel. Donc, mais ça, encore une fois, c'est pas propre à la méthode, c'est un peu chaque école fait comme elle veut. Moi, initialement, un des trucs que j'avais en tête et qu'on a finalement pas implémenté, mais en fait, si, mais différemment, c'était des dojos. Vous savez un peu le principe de dojo,
ouais.
En gros, par exemple, les jeudis, c'était soit études de cas, soit dojo, soit justement QCM ou quoi. Finalement, on a un peu changé de fusil d'épaule et on a fait ça un peu différemment, mais c'était dans mon souhait initial, en l'occurrence.
Ok, cool.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager sur la méthode?
Je peux peut-être.
On a encore un peu de temps.
Ouais, je peux peut-être vous donner 2-3 infos sur après comment il y a le day-to-day, comment est-ce qu'on fonctionne un peu au jour le jour, et nos principes et valeurs. Peut-être que sur les. Déjà sur les principes et valeurs, peut-être déjà pour que vous voyez un peu où est-ce qu'on essaie d'emmener aussi les élèves. Nous, encore une fois, on est une méthode agile, hein, donc. On est clairement basé sur le framework agile. Donc, on est manifesto à fond. Donc la collaboration, tout ça, les individus, tout ça, c'est vraiment notre credo. Donc ce qui fait que sur la partie principe et valeur, tu vas retrouver des choses du genre la collaboration, l'adaptation. On a beaucoup de travail sur la réflexion, en fait, donc introspection, rétrospective, qui nous tiennent à cœur. On va avoir un truc qui est un peu différent, que je vois pas partout, mais qui, pour le coup, moi, me tient à cœur. C'est sans doute aussi lié à mon profil psychologique, mais qui est lié à l'environnement de travail. Donc c'est un truc où maintenant, tu vois, l'ère du télétravail, c'est limite devenu secondaire, je trouve. Mais j'ai souvent remarqué que, et en entreprise aussi, hein, c'est pas pour rien si Google, toutes ces boîtes-là ont investi dans des campus de dingue pendant très longtemps, c'est que, en fait, plus tu te sens bien dans ton environnement de travail, et là, en l'occurrence, d'apprentissage, plus tu vas avoir envie de rester, plus tu te sens à l'aise, plus tu es en confiance, plus tu es dans de bonnes dispositions pour apprendre. Donc nous, un des principes qui me tient à cœur, c'est d'avoir un environnement de travail inspirant. Donc on va faire passer des messages. Tu vois, c'est basique, mais tu vas avoir des messages du genre « Done is better than perfect ». Tu vois, on a des gros posters comme ça. On fait passer des messages comme ça toute la journée. On s'en sert de temps en temps. Les PO, les mentors s'en servent. On va avoir ce genre de choses. On va avoir les trucs un peu classiques de la start-up où tu peux te détendre en canapé. Les élèves peuvent se balader en chaussettes s'ils veulent se balader en chaussettes. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... on n'est pas à vous dire « t'es en Bermuda » ou je sais pas quoi. En fait, on essaie vraiment de créer une culture assez inclusive où chacun se sente bien et où chacun puisse se sentir libre de d'échanger et être en confiance. Notamment aussi parce que, et je le remarque ces derniers temps, là, avec la Gen Z, enfin la génération Z, tu peux pas les catcher et les attraper comme tu nous attrapais nous à l'époque, tu vois. Tu peux pas. C'est pas possible de faire un cours. Déjà, nous, c'était compliqué, un magistral, mais il faut vraiment qu'ils se sentent bien et que ce soit dans l'air du temps et que, tu vois, si t'as de la vidéo en plus, c'est génial. Si t'as, tu vois, il faut de l'anecdote. Il y a beaucoup de ce truc-là. On est beaucoup dans cette consommation d'apprentissage qui est différente. Donc, dans les valeurs, on est vraiment, sur créer un environnement inspirant. Où les gens se sentent bien pour venir et n'aient pas envie finalement de rester en télétravail, parce qu'on propose aussi de temps en temps du distanciel. Mais voilà, essaye de faire ça. Et après, sur tout ce qui est plutôt valeur, moi, il y a des points qui me tiennent à cœur, mais qui viennent directement de l'agilité, hein, c'est bien-être. Sens-toi bien d'être toi-même et sens-toi bien dans le groupe. C'est teamwork, donc on travaille ensemble et on met ça en avant. Ça va être tout ce qui est lié au bien-être des autres. Donc non seulement on fait en sorte que les gens se sentent bien et soient en confiance dans leur travail, mais on fait aussi attention, on leur dit soyez empathiques, aidez les gens qui sont en difficulté, allez vers les élèves qui sont en difficulté, aidez-les, ne les laissez pas en galère psychologique. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on travaille ça, parce qu'on en a eu, hein, avec des élèves qui étaient en perdition parce que l'algo, c'est dur en fait quand t'en as jamais fait, et quand tu vois ton copain à côté qui est en train de finir super vite et toi t'es là et tu comprends pas ton if ou ton, tu vois, t'es en mode je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc il y avait ça, donc essayer d'être très inclusif là-dedans, et il m'en manque un aussi super important, l'excellence, parce que je reviens encore sur cette histoire qui moi me marque vraiment dans l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on cherche pas à mettre en avant l'excellence. Ça veut pas dire que l'éducation n'essaye pas, mais je pense qu'aujourd'hui le système il est cassé d'un point de vue excellence, et je les pousse vraiment pour qu'ils soient excellents. Et on dit vraiment allez chercher vraiment le top. C'est pas grave si vous y arrivez pas. C'est pas grave, c'est pas ce qui compte. Allez chercher l'excellence dans tout ce que vous faites. Donc voilà, il y a ça, la passion, bien sûr, on cherche vraiment, parce qu'encore une fois, c'est aussi un héritage et un legacy de l'éducation nationale, faire en sorte que soyez passionné par ce que vous faites et vous serez motivé, quoi.
Ah non, je suis complètement d'accord là-dessus. Et au niveau de l'éducation française, je pense, enfin, c'est même plus à prouver, mais que l'éducation française a été, alors plus maintenant, hein, mais il y a plusieurs décennies, a été reconnue pour justement avoir une barre qui était extrêmement haute et qui disait aux gens, challengez-vous pour arriver à ce niveau-là, puisque c'est ici que réside l'excellence. Et évidemment, depuis maintenant plusieurs décennies en France, c'est clairement un nivellement vers le bas, où en fait, on veut que tout le monde réussisse. Il suffit de voir les résultats du baccalauréat. Je crois qu'on est à 98% de réussite. On peut plus appeler ça un examen à ce niveau. Voilà, c'est un ticket qu'on te donne et on dit bravo, t'as fait comme tout le monde. Et quand j'en parlais avec mes grands-parents, enfin ils le disaient, le niveau des baccalauréats aujourd'hui, je crois, équivaut même pas au niveau des CM2 de mes grands-parents. Donc on est arrivé à un niveau qui est plus qu'au ras des pâquerettes. C'est pas pour rien qu'on est dernier en Europe au niveau des mathématiques, alors qu'on est le pays de Pasteur et de tant d'autres génies. Donc il y a vraiment quelque chose qui est cassé au niveau du système français, et c'est là où je trouve qu'on a, nous, de la chance en tant qu'ingénieurs, d'avoir quand même des écoles qui nous tirent toujours à aller à ce niveau-là. Et je pense pense que rajouter l'excellence comme une valeur est extrêmement importante, puisque, enfin, sauf si les gens font des métiers comme ça pour avoir le train de vie de monsieur tout le monde, ce que je pense pas être le cas. Et donc c'est là où justement on a la chance, enfin moi ça a été mon cas, pas toute ma promo évidemment, mais deux tiers des gens avec qui j'ai été, qui sont restés pendant les 5 ans avec nous, aujourd'hui leur carrière sont vraisemblable à la mienne, qui est bien au-delà d'autres personnes qui ont peut-être pris les mêmes carrières mais pas avec le même drive, ou justement une école qui leur a inculqué de toujours essayer d'être le meilleur possible. Voilà, donc là-dessus je te rejoins complètement.
Ouais, et j'ai l'impression aussi que c'est l'excellence, c'est intéressant et je pense c'est très pertinent d'aller la chercher, mais je pense pas qu'on puisse aller la chercher tout en étant hyper punitif et en sanctionnant l'erreur. Et du coup, justement, c'est hyper inspirant ce que tu dis. C'est un peu la méthode américaine, tu vois. C'est genre, voilà, au moins il a essayé. Quoi.
C'est ça.
Et ensuite, tu apprends de tes erreurs et tu continues à aller chercher. De toute façon, tu n'arriveras pas à être parfait dès le début. Mais c'est en continuant que. Donc, c'est essayer de tendre vers l'excellence plutôt que aller chercher la perfection en one shot, quoi.
Mais c'est vraiment, enfin, c'est un sujet, hein, enfin, ça pourrait être, on pourrait en parler des heures, mais moi je trouve vraiment que, ce que tu l'as dit, hein, j'ai pas osé le dire, Pierre, mais tu l'as dit, je le pense tellement, c'est cette histoire de nivellement par le bas, moi qui m'agace.
Ah, complètement.
Mais tellement, tu vois, je vois des jeunes, et je discute avec eux, et je me dis des fois, mais c'est pas possible, et je sais que c'est pas de leur faute, tu vois, je sais que c'est un truc qui est psychologique, c'est-à-dire que petit à petit, ça s'est venu, ça s'est ancré, et si t'as pas des modèles, des rôles modèles, comme on dit des fois maintenant, autour, qui t'incitent à aller plus loin, ou plus haut en tout cas, c'est compliqué. Et en effet, le punitif, mais c'est horrible, enfin, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que t'as essayé, t'as pas réussi, on va te sanctionner pour ça. Non, et je pense qu'au contraire, il faut. Et d'ailleurs, c'est un des sujets aussi qu'on a intégré dans la méthode, c'est on s'est basé sur et calqué sur un truc que fait Google, mais je crois qu'ils le font plus aujourd'hui. C'est, vous savez, le 20%, le temps 20% Google, ce qu'ils appellent aussi les lab days. Enfin, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça. On inclut ça, on appelle ça des lab days. On donne du temps à nos élèves sur leur semaine, donc sur leur sprint, on va leur donner une demi-journée pour travailler sur des projets perso qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment pour ça, en fait. C'est vraiment pour leur dire, ok, t'essayes, t'expérimentes, tu joues, c'est un laboratoire. Et tu vas comme ça un peu te guider dans ton process d'apprentissage, et peut-être que tu vas découvrir un truc qui va t'intéresser, et peut-être que tu vas rester là-dedans. Mais à aucun moment on leur dit, tu sais, ah non, attention, hein, ce temps-là, à la fin, tu me présentes un truc, si c'est loupé, ça sera dans ta moyenne. Et non, au contraire, on les pousse à faire des choses incroyables. On essaye en tout cas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, c'est pas grave, c'est un long chemin l'apprentissage, on apprend toute notre vie. Donc tu peux pas commencer à casser des vocations en disant, non, mais attends, mais t'as pas le niveau, enfin. J'ai entendu des profs dire ça des fois à des élèves, non mais t'as pas de niveau, qu'est-ce que tu veux faire, ça va pas, non, t'as pas fait assez de maths. Bon, peut-être qu'ils ont raison, mais c'est pas une façon de le dire.
Non, et puis il y a une grosse contradiction aussi en France, c'est là où justement, moi j'adore être à Londres pour ça, c'est-à-dire que ici, c'est un truc tout con et on le répète à chaque fois, mais ici par exemple tu vas en France, si tu vas voir les investisseurs et tu leur dis, bon bah voilà, j'ai tenté de faire 5 startups, il y a deux, mettons deux profils, chacun fait 5 startups, il y en a un qui va venir en disant, bon bah j'ai fait 5 startups, il y en a une, la toute première qui n'a pas marché mais les 4 derrière ont fonctionné, il y en a un autre qui va venir en disant, bah j'ai foiré les 4 premières mais là j'en ai une qui fonctionne. En France on va prendre celui qui a eu les 4 startups qui ont réussi, au Royaume-Uni je peux t'assurer qu'ils vont prendre celle où le gars a foiré 4 fois, parce qu'ils se disent, ce gars il a foiré 4 fois, la 5e a marché, et il en redemande, c'est qu'il va y arriver parce qu'il a appris de ses erreurs. En France on a peur de l'échec, et surtout c'est que non seulement on a peur de l'échec mais on stigmatise l'échec, et c'est là où c'est la double peine, c'est qu'on ne reconnaît pas l'échec comme étant une source d'apprentissage, et en plus on la pénalise au-delà de ça, là où les Américains, je n'ai pas du tout les Américains à cœur, mais pour le coup je dois leur reconnaître ça, c'est qu'ils reconnaissent l'échec comme étant la meilleure forme d'apprentissage, et ils, dans une certaine manière, ils donnent un safe space qui est, c'est totalement normal d'échouer, et justement ils incitent sur le fait que si on n'échoue pas, on ne progresse pas, et en France on essaye d'avoir ce truc un peu mystique qui est, on peut progresser et être excellent sans jamais échouer, ou du moins ne jamais dire qu'on a échoué, et ça crée un paradoxe, et ça crée, je trouve, une pression mentale qui est énorme de se dire qu'en fait on n'a pas le droit d'échouer, donc comme on n'a pas le droit d'échouer, bah les gens vont pas essayer, et c'est là où c'est tout un engrenage qui est, je trouve, très malsain dans l'apprentissage français en général, qui est, si t'as échoué, le dis surtout pas. Mais pourquoi ne pas le dire, parce que justement c'est tellement source d'apprentissage, et ça permet d'aller tellement plus loin dans la vie et dans nos carrières professionnelles, et je ne comprends pas en France qu'on ait, on va dire, un peu cette omerta ou ce non-dit autour de l'échec qui est pourtant tellement puissant dans l'apprentissage, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse. Ils le recherchent constamment, quoi. Donc, ouais.
Et ça crée une spirale, parce qu'en plus, si personne ne dit qu'il a échoué, on a tous tendance à inférer que les autres, s'ils en sont là, c'est qu'ils sont parfaits. Moi, je passe mon temps en podcast à dire aux gens, ah ouais, moi, j'ai une méthode qui, pour faire comme si, je fais comme si, je fais comme ça. Et en fait, on a tendance à penser que je suis quelqu'un de super discipliné et tout, que je réussis tout et tout. Mais non, mais j'échoue tous les jours, tu vois. Un petit peu, mais j'échoue tous les jours. Et c'est cool, c'est ça qui est bien, quoi. C'est à chaque fois que t'échoues, c'est trop bien. Et je dis ça à mes équipes tout le temps. J'ai fait deux débriefs cette semaine avec mes équipes, et à chaque fois on avait beaucoup de choses à débriefer, tu vois. C'est une jeune équipe avec laquelle je travaille, on vient juste de la former, donc évidemment on fait plein de trucs pourris, mais à chaque fois ils sont un petit peu down en débrief. Ah ouais, non, et je leur dis, mais c'est des super bonnes nouvelles, quoi. C'est voilà, là on va commencer à parler, quoi. C'est il y a des lessons learned, on va pouvoir commencer à itérer, et c'est trop bien, quoi. Je préfère qu'on trouve ces problèmes là maintenant que dans 3 mois, quand on sera vraiment sur des projets hyper capitaux et que les deadlines vont se rapprocher, quoi.
De toute façon, les pires problèmes, c'est ceux dont soit tu n'es pas au courant ou ceux dont personne n'ose parler. Et ceux-là, c'est les pires, puisqu'ils sont là, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et à un moment, ça a pété. Donc, ouais.
Donc tu nous disais que t'as commencé à expérimenter avec cette méthode. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est implémenté dans une école, dans plusieurs écoles ? Comment tu vois les choses avancer ?
Alors actuellement, donc comme je le disais, moi, je l'ai expérimenté dans une école de code. On a sorti, donc là ça fait 6 ans, c'est la 6e année là qu'on expérimente quand même, donc on commence à avoir un peu de vécu, d'élèves qui sont en place. Il faut savoir que l'école aussi est quasiment totalement en alternance, pas totalement mais quasiment. Il y a aussi des temps pleins, mais pour la première et deuxième année parfois, mais après ils sont tous en alternance. Donc ça aide aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Ton intro, Julien, évidemment, là-dessus, ouais. C'est clairement ça, on le sait, hein, c'est la puissance que ça. Donc c'est une bonne, je trouve que c'est un bon mix de ce côté-là. Mais ça veut pas dire que sur les temps pleins que j'ai, tu vois, ils apprennent pas, et que ça marche pas pour eux, la méthode, au contraire. Donc aujourd'hui, on a expérimenté dans une école qui s'appelle donc la Coding Factory, qui est une école de la Chambre de commerce de Paris, et c'est là où c'est cool, enfin, comme les au même titre que HEC, l'ESSEC ou le SCP. Donc en fait, on a déjà on a un certain réseau intéressant où éventuellement on pourrait ouvrir chez eux peut-être plus tard un jour. Mais c'est pas à l'ordre du jour, mais peut-être. Aujourd'hui, ça marche. On l'a éprouvé. En ce moment, je fais un research paper, justement. J'essaie de faire un mémoire de recherche pour donner du grain à moudre, en fait, à prouver un peu, finalement, ce que je suis en train de dire, et pas juste « Ah, OK, André, il nous vend son truc, mais en fait, est-ce que ça marche vraiment ?» Donc là, je suis en train de publier ça avec des données un peu plus, je dirais, scientifiques là-dessus. Et à côté de ça, on est en discussion avec 2 écoles. Donc, je suis en discussion avec une école d'ingé de Dakar. Alors, j'ai oublié son nom, je l'ai plus en tête parce que c'est un des profs que j'ai côtoyé qui est parti là-bas et qui voulait expérimenter un peu plus loin là-bas. Maintenant qu'il est arrivé sur place, il m'a dit, écoute, ça serait pas mal si on expérimentait ça ici. Et je suis aussi en discussion avec un prof en enseignement secondaire, donc là en lycée pro en Nouvelle-Calédonie, qui souhaiterait aussi aller dans ce sens-là. Lui, il fait un petit peu des du Scrum aussi, donc il me connaissait par rapport à les du Scrum à la base. On a continué d'échanger, il est venu nous voir, il a vu comment ça fonctionnait à Jalad School, à la coding, et il s'est dit, ok, là je pense qu'il y a un truc, on va essayer d'avancer. Donc là, on va pas trop tarder, je l'espère en tout cas, à démarrer des pilotes avec eux. On verra après. Moi, j'ai en tête aussi de mettre en place, je m'interdis pas en tout cas, de mettre en place de mon côté des bootcamps sur des versions, donc sur des périodes plus courtes que 1 an ou 2 ans, ou 3 ans même sur des diplômes CNCP, faire des formations plus courtes, de peut-être 2 mois, 8 semaines, dans lesquelles on ferait des bootcamps de code, des bootcamps produits, des bootcamps startup, dans lesquelles je vais essayer de continuer d'expérimenter, d'appliquer la méthode de cette forme-là.
Je pense que si j'étais à ta place, en tout cas Nouvelle-Calédonie, j'assisterais moi-même au pilote, je resterais quelques semaines histoire d'être sûr que tout se passe bien, tout se mette bien en place. Mais non, c'est carrément cool qu'il y ait de l'attraction comme ça. Et du coup, toi, ton but, c'est quoi ? C'est de continuer du coup à développer cette méthode ? Parce que j'aime beaucoup aussi le fait que tu dis ça fait 6 ans et tu dis on expérimente toujours, c'est même la manière dont tu le dis, on sent que tu es toujours un demandeur du coup de feedback et de voir comment ça avance. Mais du coup, à terme, ce serait quoi ton idéal ? C'est que du coup, ce soit une méthode qui du coup se démocratise dans l'éducation. C'est justement ce qui est intéressant, c'est que justement tu dis, c'est pas forcément que pour le supérieur, avec justement du secondaire, avec des lycées ou même peut-être des collèges, comme tu disais plus tôt quand tu as été à Lisbonne avec l'école hollandaise qui, eux, du coup, bah, appliquaient, alors pas ta méthode, mais une certaine manière, même juste, enfin, démarrant au collège et du coup, évidemment, dans le supérieur et dans le, non, même le secondaire, enfin, secondaire et ensuite supérieur. C'est quoi, du coup, le futur que tu vois pour ta méthodologie?
Alors, dans l'idéal, en effet, ouais, l'idée, c'est de continuer d'expérimenter. Parce que là, je considère pas... Enfin, je pense que là, on est arrivé à une bonne maturité sur une V1, pour parler un peu en mode informaticien, mais je pense que là, on est sur une bonne V1, où en gros, on s'est prouvé, ça marche, j'ai des retours assez dithyrambiques de mes élèves, mais après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a ce truc un peu de la vanité, c'est-à-dire qu'ils me connaissent, ils ont expérimenté des choses. Maintenant, j'aimerais sortir de ça. J'aimerais vraiment expérimenter à l'extérieur de ce mode-là, voir comment ça fonctionne, comme je disais avec ces pilotes-là. Mais le futur, ouais, ce que j'aimerais, ce que j'ai en tête, et j'avais déjà été approché il y a peut-être 2 ou 3 ans, juste avant le Covid ou juste après le Covid, je sais plus, par quelqu'un qui voulait porter une sorte de mission parlementaire pour dire voilà les méthodes un peu pédagogiques, un peu innovantes. Et donc du coup, il m'avait un peu topé comme quelqu'un qui porte... à l'époque, je parlais pas d'Agile at School, je parlais plutôt des Scrum. Mais okay. Ça fait quelques années, donc ouais. C'est pour ça que je dis que c'était peut-être 2019. Et il m'avait topé là-dessus, il m'a dit écoute, est-ce que tu veux travailler avec nous là-dessus? Et en fait, j'étais hyper chargé par tout ce qu'on faisait. Et j'avais dit pourquoi pas, mais voilà, on va voir. Et je sais pas trop où ça en est, mais il avait identifié 5-6 méthodes qu'il voulait comme ça pousser et qu'il voulait un peu voilà, porter, en tout cas au niveau éducation nationale. Moi, c'est clair que j'adorerais qu'on puisse commencer à expérimenter ce type de méthodo qui, pour moi, me semble très approprié aussi au secondaire. Clairement.
D'accord.
Je vois et j'ai vu ce que donnaient les Scrum aux Pays-Bas. Je pense vraiment que et je sais qu'il y a des profs en France au collège qui le font. Hein. Il y a des profs de français sur Twitter. Vous pouvez suivre. Il y a quelques personnes. Je pense notamment à Christian Den Hartig, qui est un prof de français incroyable qui expérimente et du Scrum avec d'autres choses en plus. Il fait du biomimétisme, okay. Il fait plein de choses assez dingues à son niveau pour un prof de français. Je trouve ça fou. Il doit être vu comme un ovni dans l'école. C'est complètement dingue. Et j'aimerais bien les titiller là-dessus, leur dire voilà, vous savez, il y a autre chose. On peut imaginer des choses différentes. L'excellence, ça se travaille pas que d'un point de vue de l'élève, ça se travaille aussi de notre point de vue. On a besoin de réinventer l'école, surtout, et encore une fois, je le répète, à l'heure de la Gen Z, de la génération Z, qui n'a plus du tout envie d'apprendre de la même façon, à l'heure de ChatGPT, où franchement, tout est à dispo en un millième de seconde. Donc, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Et donc, ouais, l'idée, c'est ça. Aller les voir. J'aimerais bien, en tout cas, travailler avec eux là-dessus et expérimenter sur d'autres écoles secondaires pour qu'on améliore encore cette V1, qu'on passe à une V2 et qu'on essaie d'accélérer après. Ouais, ça serait génial.
Ok. Et du coup, donc une question aussi. Donc pour toi, quelle est en fait la mesure du succès de la méthode? Ce qui est un peu une question, parce que par exemple, donc si je prends l'éducation française, avant c'était la quantité de connaissances apprises. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est juste s'assurer que l'étudiant va rester assis. Bah, c'est très triste, hein, et je suis assez cynique là-dessus. Mais l'idée, c'est de s'assurer qu'un élève peut rester assis 8 heures avec une pause de 1 heure au milieu de la journée, et qu'à la fin de la journée, normalement, il n'aura pas sauté au cou du prof ou il se sera pas enfui de la classe. Et c'est plus trop est-ce que il a appris suffisamment ou pas de connaissances. Mais du coup, de ton point de vue à toi, quelle est du coup la mesure de succès de la méthodologie? Est-ce que c'est plus au niveau du coup de ce que je disais au début? Est-ce que c'est vraiment la quantité d'informations qu'aura été absorbée par l'élève, ou est-ce que c'est aussi du coup justement l'adhérence à la méthodologie et du coup au fait qu'il ait envie d'apprendre? Qui pour aujourd'hui, de mon point de vue, est le plus gros problème dans l'éducation française, c'est qu'aujourd'hui l'éducation française n'est plus capable de rendre le fait d'apprendre suffisamment sexy pour cette nouvelle génération. On a toujours des méthodes arriérées de faire écrire sur du papier, alors qu'aujourd'hui on a des vidéos, des podcasts, on peut faire absolument tout, mais on continue à demander aux élèves, aux professeurs d'écrire sur un tableau blanc et aux élèves d'écrire sur des feuilles de papier. Donc voilà.
Ouais, c'est triste ce que tu peins là comme tableau, mais c'est la réalité. Ouais. Nous, en termes de critères de succès, il y a plusieurs sujets. Moi, cette méthode elle est très pratico-pratique. C'est-à-dire que pour moi, je fais du pragmatisme. Je veux que les élèves soient épanouis. C'est-à-dire qu'un de mes critères, c'est tu sors de là, t'es épanoui dans ton domaine. C'est-à-dire que il y a une adéquation entre ce que t'as choisi et ce que tu vas faire. Tu n'es pas là par hasard, ou en tout cas, t'es peut-être venu par hasard, comme souvent, mais tu t'y es retrouvé. Tu as en effet adoré apprendre, tu t'es éclaté, tu as découvert un domaine qui te plaît. Et je parle pas que de l'informatique. Aujourd'hui, on fait de l'informatique, mais demain, on répercute ça sur une école d'art. j'en sais rien, de design, mais super, tu vois. Le but, c'est pas, c'est que tu sortes de là, que tu sois, que t'aies envie de créer, de faire de l'art, de créer de vraiment d'exceller dans ton art finalement. Et donc, il y a vraiment cet épanouissement, déjà. J'aime voir les élèves qui ont l'œil qui pétille, qui sortent de là, qui sont super contents, et qui se disent, non, mais c'est génial, j'ai bossé jusqu'à 3 heures du matin. On leur demande rien, tu vois. C'est eux qui le font. Moi, je dis pas, tu bosses jusqu'à 3 heures du matin, ou demain, je te mets un 2. Mais pas du tout. C'est juste que, en fait, ils sont tellement passionnés, ils aiment tellement ce qu'ils font, qu'ils vont aller au bout du truc, quoi. Et ils se disent que s'ils rendent pas un truc quali, mais c'est la fin du monde. Tu vois, j'en ai des fois en soutenance, ils sont dégoûtés. Je dis, mais vous êtes malade, quoi. Vous avez vu le truc incroyable que vous venez de me faire. Vous êtes des premières années, on se détend, hein, tu vois. Donc, moi, il y a beaucoup cet épanouissement. Et bien sûr, une vraie mesure très critique, très pragmatique, c'est le taux d'insertion professionnelle derrière. C'est-à-dire que si derrière, ils font genre un entretien et ils sont pris tout de suite, où est-ce qu'ils arrivent à bosser dans le domaine qu'ils veulent? Où est-ce qu'ils arrivent à bosser pour la boîte qu'ils veulent? Est-ce que ils sont bien payés? Est-ce que tout ça, en fait, je l'analyse, ou en tout cas j'essaie d'analyser avec les alumni pour voir vraiment où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils font, s'ils ont des difficultés ou pas. Et heureusement, en tout cas, ça, je sais pas si c'est pas que la méthode, hein, parce que c'est la méthode, c'est qu'une chose, c'est qu'un élément. Mais en tout cas, ils arrivent à sortir avec des très très bons salaires. Ils ont un niveau, généralement, je dis ça, je vais pas citer d'école parce que je veux pas, voilà. Mais généralement, je dis que mes élèves de troisième année ont un meilleur niveau que généralement des bacs plus 5. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi, quand tu as démarré en première année, hein, parce qu'ils ont vraiment réussi à accumuler un tas de soft skills, quoi. Enfin, tu vois, vraiment une quantité de soft skills qui est assez impressionnante par rapport aux autres, et qui rejoint ce que tu viens de dire, hein, Pierre, qui est de dire, bah, ils savent comment apprendre, ils savent l'intérêt que ça a, ils apprennent pas pour moi ou pour l'école, ils apprennent pour eux, ils ont compris ce point-là, ils savent où chercher, donc ils apprennent à apprendre, tout simplement. C'est ce qu'on leur inculque. Et du coup, derrière, on sait que ça va marcher, quoi. Et du coup, derrière, ouais, ils arrivent à trouver des belles boîtes, des bons salaires, encore une fois. Et moi, c'est surtout cette mesure-là. Ça, l'épanouissement, vraiment, et le niveau. Parce que comme je donne des cours dans plusieurs écoles, je peux vite me rendre compte, et même si je suis coach agile, je vous l'ai pas dit, mais je continue de coder à titre perso. Donc, du coup, je suis capable de travailler avec un dev en pair programming et d'analyser un peu ce qu'il fait. Et donc, mes élèves, c'est pareil. Je suis capable de voir si vraiment ils ont un niveau de malade ou si, voilà, c'est pas foufou. Donc, tout ça me fait dire qu'en termes de niveau technique dans mon domaine qui est l'informatique, mais si j'étais dans l'art, est-ce que je sais pas, moi, est-ce qu'il s'est restitué, si je suis chez les Gobelins par exemple, parce que je sais faire du motion design ou je ne sais pas trop quoi, en première, deuxième, cinquième année, bah là c'est un peu pareil. Est-ce que je sais déjà faire du web 3 avec des smart contracts en deuxième année, ou est-ce que je l'ai fait qu'en cinquième année? Ça, c'est des mesures qu'on a, et c'est ce genre de métriques qu'on suit.
Ok, ah, c'est super intéressant. Enfin, non, en tout cas, on sent que tu as pensé à tout. Et pour le coup, ça rejoint à nouveau les demandes, de mon point de vue, de la CTI, et aussi du coup ce que Pebel remplissait au niveau des acquis. Et justement, il y a le fait de trouver un emploi ou pas dans les 6 mois qui suivent la fin de formation, à quelle qualification, à quel salaire et tout ça. Mais ok, merci, super intéressant.
Ouais, on a tendance à oublier que c'est la finalité au final d'avoir le diplôme. C'est pas juste d'avoir le diplôme, c'est tout le reste de la vie après. Très bien. Vous connaissez la tradition. On t'a demandé de réfléchir à quelques outils que tu voudrais partager aux auditeurs et auditrices que tu utilises probablement dans ces cas-là. C'est quoi ta toolbox?
Alors moi, j'ai une toolbox très très basique d'un coach agile un peu au jour le jour. Parce que moi, c'est vraiment, ma vie est un to-do. Donc je ne vais pas vous mentir, depuis mes 23 ans, j'ai une to-do list qui évolue depuis maintenant plus de 12-13 ans. J'ai cette to-do list, et donc je travaille avec une to-do list les outils ont évolué, mais en gros, aujourd'hui, l'outil que j'utilise le plus pour rédiger, ça va être un Sublime Texte. Donc vraiment, tu vois, un notepad, hein. C'est vraiment un bloc-notes. Moi, je dis Sublime, mais c'est un bloc-notes. Très simple, rapide à ouvrir, que je peux avoir sur mon Mac rapidement avec vraiment mes to-do. Je vais utiliser Calendar beaucoup pour mettre des objectifs, suivre et traquer ma roadmap. Parce que voilà, je vais avoir une roadmap à court, moyen et long terme, que ce soit pour ce sujet ou d'autres sujets dans ma vie pro. Donc je vais beaucoup utiliser Calendar, Google Calendar. Sublime pour toute la partie un peu suivi de to-do list en mode très rapide. J'avais testé des trucs comme tout le monde, hein, vous savez, les outils de to-do list super jolis, super fancy, mais en fait ouais, tu finis par pas trop les utiliser ou mal, et puis en fait c'est pas synchro, je sais pas quoi, et en fait t'as pas les trucs sous ta main. Donc en fait Calendar, Sublime, c'est parti quoi, tu te fais ton truc. Et il y a après un outil que j'aime bien, qui est pas un bon outil agile je trouve, mais qui en tout cas est un bon outil de suivi et d'avancement de projet, c'est Trello, qui est un Kanban, hein. Enfin voilà. Et donc j'aime bien Trello pour les projets un peu plus poussés pro. Je veux dire à titre perso, hein, je veux dire pas au niveau boulot, entreprise, je vais utiliser du Jira comme la plupart des coachs agiles, mais souvent c'est ce qu'on va voir en tout cas. Mais moi j'aime bien Trello parce que ça simplifie beaucoup les choses, tu vas vite aussi. En gros, tous les outils de productivité simples à prendre en main qui me permettent d'aller vite.
Ouais, exactement, des outils très, très versatiles, je trouve. Finalement, moi c'est un peu pareil, j'utilise mon bullet journal beaucoup et vraiment en version, alors je l'ai sur l'iPad, mais c'est quand même au stylo quoi. Et j'utilise beaucoup Notion à côté, donc j'ai réfléchi de 10 000 façons possibles d'essayer d'intégrer tout ça dans Notion. Mais la beauté du bullet journal, c'est que tu discutes avec quelqu'un, tu veux noter un truc, bam, tu le notes, terminé, c'est dans ta to-do. Alors que dans Notion, je me vois déjà faire 3 clics, sélectionner le template, machin et tout. Ça me saoule quoi. Ce sera bien rangé, mais ce sera pas possible. Donc j'aime beaucoup le message, la versatilité, pareil, Trello, voilà quoi. Tu veux une colonne en plus, bam, tu mets ta colonne en plus, paf, c'est parti quoi.
J'ai essayé Notion, sincèrement, hein, j'ai essayé, comme tout coach agile qui se respecte, je passe par différents outils, mais j'en suis revenu parce que voilà, parce que comme tu dis, c'est très cool et tout, mais je me suis vu en fait ne plus l'utiliser au bout d'un moment, et en fait ce que tu avais mis en place pour ton personal OS, en fait tu t'en sers plus parce que trop long quoi.
Exactement. J'utilise beaucoup de Notion plutôt pour des projets moyens, long terme, pour traquer mes one-on-one avec mes développeurs, pour organiser Agilist, des choses comme ça, où là on a vraiment un board où on peut voir chaque épisode qui est en mixage, qui est planifié, etc. Mais pour les trucs avec des itérations beaucoup plus courtes, type to-do, daily, etc., c'est pas possible quoi.
On avait un exemple tout con qui me revient parce que justement on parlait de l'école, mais on avait un de nos professeurs, Denis Froliger, qui du coup était bien trop vieux je pense déjà pour être prof, mais comme il adorait ça, évidemment il restait prof. Je crois qu'au final il a même fini, c'était du bénévolat à un point parce qu'ils n'avaient plus le droit légalement de l'employer, enfin c'était une histoire, mais il était incroyable ce tuteur. Et en gros il y a un moment on faisait donc justement un retour et c'était C, donc c'était vraiment la première année, un des premiers trucs, et il y a un moment, je sais plus, on essaie de faire tourner le code et ça bug, et on était tous avec notre code blocks, donc on avait là une pléthore d'outils pour justement faire tourner notre code et tout ça, et là il dit bon écoutez ça va, il ouvre Notepad++, ou je me demande même si c'est pas juste Blocknote pour le coup, je crois même pas que c'était Notepad++, et là il nous écrit une cinquantaine de lignes en C, on rigole tous à moitié en mode genre bon allez, genre il fait le cador, jamais ça marche, il fait tourner et ça marche du premier coup, et c'est à ce moment là où je me suis dit putain, en fait, et c'est enfin après avec du coup ma carrière maintenant, mais je me suis rendu compte en fait l'outil c'est bien et ça peut aider un peu, mais au final tu peux prendre quelque chose de très simple, et si tu sais le faire bien, t'as pas besoin de beaucoup d'outils pour bien le faire, et c'est toujours du plus, et c'est toujours un peu plus sexy, un peu plus rapide, mais au final, si t'as quelque chose qui fonctionne bien, et que tu sais le faire, tu peux prendre le truc le plus basique du monde, et ça fonctionnera toujours, donc...
Bah, ça devient très vite une distraction, au final.
Complètement.
C'est ça.
Excellent, on va conclure cette émission. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant, ça me donne envie de retourner à l'école. Tu vois, et je pensais pas dire ça un jour. Hein.
Ah, excellent.
Non, vraiment, vraiment très très intéressant. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous et avec les auditeurs et auditrices.
Merci beaucoup.
Si on veut te retrouver sur internet, si on veut te contacter, te suivre, où est-ce qu'on te trouve sur internet?
Alors, si vous voulez continuer la discussion, échanger sur cette méthode, ou juste passer un petit bonjour, moi je suis assez actif sur LinkedIn et Twitter. Alors plus LinkedIn ces derniers temps, mais donc c'est André de Souza, donc tout attaché /in, enfin le classique de LinkedIn, hein, /in/ André de Souza. Après j'ai un compte Twitter où pareil. Vous pouvez me trouver assez facilement, c'est _A de Souza. Vous trouverez dessus, je tweet surtout de l'agile et des choses qui se passent à l'école ou des réflexions autour de start-up et d'agile. Et après, bien sûr, j'ai un blog agile que, petite fierté personnelle, je maintiens depuis 2010. Donc, c'est un. Ça fait très longtemps que j'ai un blog agile. Mes premiers articles qui remontent à. 2010 ou 2011. Mes premiers articles vraiment agiles doivent remonter à fin 2010 ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Après, voilà, c'est par phase. Hein, le blogging, des fois, tu as beaucoup de choses à dire et tu as du temps surtout. Et tu blogues. Des fois, tu as moins de temps. Voilà. Mais en tout cas, voilà, y a toujours quelques articles qui sortent tous les ans sur mon blog. Donc ça s'appelle coffeemeeting.com. Coffee-meeting.com. Voilà.
Cool, on ira faire un tour.
Trop bien.
Excellent, ouais, absolument. Et on mettra évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. Donc, c'est facile et accessible. Pierre, où est-ce qu'on te retrouve ?
Donc du coup, bah, toujours, j'ai juste mis mon petit profil en ligne, mais pierre.ferret-ferrand.fr. Je pense qu'un jour j'expliquerai pourquoi le tiret dans mon nom. Il y a toute une histoire derrière. Mais je vais rajouter quelques petits projets, peut-être un petit peu d'articles dans les mois à venir, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et puis sinon, dans LinkedIn toujours, et puis le pub, surtout avec les beaux jours qui reviennent, donc n'hésitez pas.
Oh oui, le petit beer garden.
Absolument.
Toi, Julien. Excellent. Et moi, toujours sur julien.deret.fr. Et vous trouvez mon bouquin sur Scrum, comment j'ai organisé mon mariage avec Scrum, How I Planned My Wedding with Scrum. Et enfin, vous me retrouvez dans le podcast ReLife aussi, podcast de l'amélioration du quotidien, où on raconte plein de trucs sur productivité. On parle de plus en plus de management maintenant que j'y suis aussi. Mais voilà, c'est intéressant. On parle Bullet Journal et plein d'autres trucs. Dans le dernier épisode en date, je raconte mon retour d'expérience sur un tour en avion de chasse que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, on parle de choses diverses et variées. Allez jeter une oreille, c'est toujours. En tout cas, on se marre bien. Enfin, notre site internet est en ligne, donc agiliste.com, agiliste au pluriel, .com. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais vous pouvez vous y inscrire à la newsletter où on va essayer de vous faire des analyses un peu plus en profondeur des sujets qu'on traite dans les épisodes. C'est aussi peut-être quelque chose qui va être plus facile à partager pour des gens qui ne voudraient pas spécialement écouter une heure de podcast. Là, vous aurez un résumé de l'épisode plus quelques clés en plus. On va essayer d'approfondir un peu les sujets. On va voir si on arrive à s'y tenir et si on arrive à proposer quelque chose de qualitatif. En tout cas, on attend vos retours. Merci d'avoir écouté Agis. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose, on vous laisse nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify. Si vous nous découvrez sur LinkedIn, passez-nous un petit message, les commentaires du post. Venez dire bonjour à André ou à Pierre ou à moi-même. Si vous voulez intervenir dans Agilist comme André, passez-nous un message. On sera toujours heureux et curieux d'écouter ce que vous avez à partager avec la communauté. En attendant, on vous retrouve dans 15 jours pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Salut André, salut Pierre.
Salut André, salut Julien.
Salut, merci.
Salut.